Radio Do.
Des jeux, des mots.
Des histoires.
De la philo, c'est fun.
Et c'est rigolo.
Chut, ça va commencer.
Vous écoutez Radio Do, le podcast de la Média Ludo au-dessus de Blagnac.
Nous vous avons préparé une émission passionnante à la rencontre de Yanis Yolantas, qui anime des ateliers philo rigolo. Et ce samedi 13 décembre 2025, on a parlé super-héros.
Chut, ça va commencer.
Tu es libre.
Ah, je suis radio.
Tu veux faire la radio?
Let's go.
Le thème, c'est les super-héros, les super-pouvoirs. Ça te parle?
Non.
Ah bon? T'en as pas? T'as pas de super-pouvoirs, toi?
Non.
Bon, on en a tous, nous.
Non. Bah,
comment ça, t'as pas de super-pouvoir?
Non.
Bon, en tout cas, t'es super curieux, c'est déjà pas mal. Allez, viens.
Est-ce qu'on peut aller en ludothèque, là-bas?
On peut aller partout.
Alors, on fait un interview. Quel super-pouvoir t'aimerais avoir?
Le pouvoir de rendre les gens malheureux heureux.
Trop bien. Ok, merci. Bonjour. Quel super pouvoir vous aimeriez avoir?
Remonter le temps.
Pourquoi?
Pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire dans une journée, parce qu'une journée, ça suffit pas.
Ok, merci.
Alors, les actions. Tu peux déplacer ton pion.
Tu veux celui-là?
Bonjour. Comment tu t'appelles?
Léandre.
C'est quoi ton super-héros préféré?
Chuck Demon.
Tu préfères quoi chez lui? Sa cape, sa tenue?
Son tourbillon.
Et t'aimerais avoir quoi comme super-pouvoir?
En tourbillon.
Waouh! T'as quel âge?
4 ans.
Et qu'est-ce que tu viens faire à la ludothèque?
Prendre des jeux.
Les emprunter ou jouer sur place?
Les emprunter.
Et tu t'amuses bien?
Oui.
Super, merci. Au revoir.
Au revoir.
Comment tu t'appelles?
Diane.
Quel est ton super-héros préféré?
Je sais pas.
Qu'est-ce que t'aimerais avoir comme super pouvoir?
Pouvoir faire tout ce que j'ai envie.
Ça fait combien de temps que vous venez à la ludothèque?
Depuis qu'elle est bébé, on vient à la ludothèque. Voilà, on fait, selon l'âge, on a été sur plusieurs activités. Quand elle était bébé, on allait aux lectures des enfants. Maintenant, on fait plus les jeux de plateau. Les jeux vidéo, elle est trop jeune, on considère, pour le faire. Et après, elle adore les jeux de société, les Lego et l'ambiance qu'il y a. Le fait que ce soit joli, qu'il y ait beaucoup de choix, qu'il y ait plein de personnes. Voilà.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre super-héros préféré?
Wonder Woman.
Comme moi. Qu'est-ce que vous aimez en particulier chez elle?
Son courage.
Qu'aimerais-tu avoir comme super pouvoir?
De ranger toute ma maison sans avoir à sortir de mon canapé.
Moi aussi j'aimerais ranger ma chambre, c'est que ça.
Je comprends pas.
Bonjour. Qu'est-ce que t'aimerais avoir comme super pouvoir?
J'aimerais bien revenir en arrière pour voir l'évolution du temps.
Ah, cool. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme super pouvoir?
Comme super pouvoir, avec ma fille, on fait un jeu. Ça s'appelle, parce qu'en vrai, je crois que j'ai pas envie d'avoir des super pouvoirs. Alors, on fait un jeu qui s'appelle les super pouvoirs inutiles. Moi, je peux voler, mais à 2 mm du sol. Moi, je peux me téléporter, mais seulement de 1 cm. Voilà, ce genre de super pouvoir nul. C'est ça que je voudrais avoir.
Ok, Boba, merci.
Mon voisin Totoro.
C'est lui mon héros.
Mon super héros c'est Batman. Il est dans la nuit avec les chauves-souris et ça fait un peu cool.
Radio Do. Et toi, quel est ton super-héros préféré?
Moi, mon super-héros préféré, c'est Superman. Parce qu'il vole, même si j'ai le vertige, je l'aime bien. Et toi?
Moi, c'est Wonder Woman.
Radio Do.
On va aller, comme des petites souris, assister à un goûter philo. Est-ce que tu pourrais me lire ce qu'il y a écrit là?
Goûter philo. En présence du philosophe Yanis Yuntas.
Voilà, donc la philosophie, c'est une activité qui a pour but de penser par nous-mêmes. La philosophie, c'est apprendre à penser par nous-mêmes, par exemple, en essayant de ne pas seulement avoir un avis par rapport aux choses, être pour ou être contre, mais être capable de bien réfléchir, être capable d'expliquer pourquoi on est pour, pourquoi on est contre.
On peut te tutoyer?
Bien sûr, avec plaisir.
Comment tu t'appelles?
Je préfère tutoyer. Je trouve que c'est une expression, une façon de se parler qui est très bien. Et c'est ce qui se faisait, par exemple, à l'époque de la Révolution française. Tout le monde se tutoyait, par exemple. Hein, citoyen, voilà. Donc moi, je m'appelle Yanis Yuluntas. Yanis avec deux N, parce que c'est grec. Je suis franco-grec. Je suis de mère française et de père grec. Voilà. Et je vis entre la France et la Grèce. Et quelquefois, je suis aussi ailleurs. Je suis un peu un vagabond.
Quel est ton métier?
Alors, comme tu l'as vu, j'anime des ateliers de philosophie. Je suis formateur aussi en philosophie. J'ai une spécialité sur la philosophie, sur les situations de crise, c'est-à-dire sur les épreuves, les difficultés. Donc, je m'occupe de personnes qui ont de gros problèmes de santé, parfois, par exemple, qui souffrent de santé mentale, donc qui ont des souffrances de différents types. Voilà, je vais dans différents endroits. J'ai aussi fait de la philosophie avec des sans-abri, des SDF, si tu veux. Hein, voilà, des gens qui vivent dans la rue. Et aussi avec les personnes qui les accompagnent, par exemple. Ça fait partie de mes activités. Il m'arrive aussi de faire de la philosophie en prison, avec des prisonniers, ou encore dans des squats avec des réfugiés qui ont vécu pas mal d'épreuves dans leur voyage. Voilà, je fais plus ça en Grèce qu'en France, par contre, pour ce qui concerne ce volet de mes activités. Et puis, par contre, publiquement, on me connaît peut-être un peu plus pour mes réalisations de films, puisque je suis cinéaste également. C'est-à-dire que je fais des films. Voilà. J'ai écrit quelques livres, mais surtout, je fais des films.
Question de base, c'est quoi? Parce que depuis tout à l'heure, il y a un mot, il n'a pas...
C'est quoi la philosophie?
C'est quoi la philosophie? Alors, la philosophie, comme son nom l'indique, c'est une pratique qui vient de la Grèce antique. Hein. C'est un mot grec qui est composé de deux parties. Philo, philos, ami, aimé. Sophie, sophia, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. C'est-à-dire, en quelque sorte, la pensée. Quoi. Et donc, par conséquent, on peut dire que philosopher, c'est aimer penser. En considérant que dans la vie de tous les jours, on croit souvent penser, alors qu'on ne pense pas réellement, on ne fait que répéter ce qu'on a déjà entendu ailleurs. C'est-à-dire, on entend nos parents dire certaines choses, on entend certains médias dire certaines choses, certains hommes politiques ou certains TikTokers dire certaines choses. Et du coup, on a tendance à répéter ce que disent les gens autour de nous, comme des perroquets. Mais si on ne fait que répéter comme des perroquets, dans ce cas-là, on n'est pas dans la pensée, hein, on est dans la répétition. Et donc dans la vie, pour être libre, il faut éviter la répétition, à la fois pour ce qui concerne notre fort intérieur, notre propre histoire personnelle, mais aussi il faut essayer d'éviter d'être dans la répétition pour tout ce qui concerne le vivre ensemble, la société. Et c'est un petit peu ça aussi l'objet en ce moment de la philosophie telle que nous on l'entend, c'est-à-dire une philosophie qui est directement en lien avec la société pour essayer de participer à résoudre les problèmes et surtout à prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc la philosophie, c'est une activité qui a pour but de penser par nous-mêmes. La philosophie, c'est apprendre à penser par nous-mêmes, par exemple, en essayant de ne pas seulement avoir un avis par rapport aux choses, être pour ou être contre, mais être capable de bien réfléchir, être capable d'expliquer pourquoi on est pour, pourquoi on est contre. Voilà.
Bonjour Yanis, et bienvenue du coup dans cet atelier podcast. Alors j'ai quelques questions par rapport au thème abordé aujourd'hui sur ce qu'est un héros.
Alors un héros, c'est un personnage qui peut représenter un modèle pour certains d'entre nous, un personnage illustre qui a existé ou qui est un mythe, une légende, dont on ne sait pas parfois s'il a vraiment existé. Et à l'origine, c'est un demi-dieu, c'est quelqu'un qui a un parent, un des deux parents qui est un dieu et l'autre qui est un humain, le père ou la mère ou inversement. C'est pas la même chose pour Hercule ou pour Achille, par exemple. Au départ, donc, le héros, c'est quelqu'un qui n'a plus l'immortalité biologique des dieux et qui, du coup, doit se chercher une immortalité d'une autre façon à travers la postérité. La postérité, ça veut dire laisser un nom dans l'histoire, au risque éventuellement d'y perdre la vie, comme Achille qui sait par sa mère que s'il part à la guerre de Troie, il va mourir à la guerre de Troie. Donc il va vivre moins longtemps, mais par contre il deviendra immortel au sens où son nom restera gravé à jamais dans l'imaginaire social, dans la culture populaire en Grèce, et c'est le cas encore aujourd'hui. Donc un héros au départ c'est ça. Ensuite le personnage du héros va évoluer, puisque ensuite on va avoir des héros plus humains, qui sont plus des demi-dieux. Et ensuite, ça va encore évoluer avec des personnages qui ne sont pas seulement des guerriers ou des personnages puissants physiquement qui vont nous défendre contre les bêtes sauvages, mais carrément des personnes beaucoup plus subtiles, hésitantes, nuancées, des personnes qui, toutes simples comme nous, qui essaient de faire le bien autour d'elles. Essaie avec courage de changer le cours des choses, essaie de sauver des vies, par exemple. Et donc, ces héros, par exemple, ça va devenir les héros de la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, qui vont sauver des vies et qui vont lutter contre l'injustice. Voilà. Donc, il y a des héros qui deviennent aussi des justiciers par rapport aux lois de la société. Donc, par exemple, Zorro ou Robin des Bois qui désobéissent aux lois quand ces lois deviennent complètement insensées et sont en contradiction avec les valeurs constitutives de notre société, c'est-à-dire les principes de base de la société. En France, si on considère que liberté, égalité, fraternité, c'est la devise, dans ce cas-là, on ne peut pas accepter que les lois évoluent d'une façon qui contredise complètement les principes d'égalité. Il faut que tout le monde ait à manger, tout le monde ait un toit. Les principes de fraternité, il faut accepter qu'on soit différent et qu'on représente quand même des gens d'une même famille, comme si on était de la même famille. Et la liberté, c'est-à-dire qu'on doit avoir quand même un minimum de droits, parce que sinon, ça ne va pas. Et dans ce cas-là, on ne va pas se laisser faire.
Et est-ce qu'on peut être un super-héros sans que personne ne le sache ?
Ah oui, même ça arrive très souvent parmi les héros d'avoir une double vie. Des héros sont secrets, discrets ou anonymes. Parmi ces héros les plus célèbres à être dans ce cas, on a comme super-héros Superman. Superman, qui est son nom civil, c'est Clark Kent, et il est avec son petit costume en tant que journaliste, avec ses lunettes assez épaisses. Il a l'air de pas savoir voler, de pas être très doué, d'être assez maladroit. Et en réalité, s'il se passe quelque chose autour de lui, tout à coup, discrètement, il va changer de tenue pour s'envoler et résoudre des problèmes, puisque le rôle du héros et du super-héros en particulier, c'est d'aider à résoudre les problèmes dans la société. Question d'ailleurs qu'on peut se poser, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on apprenne à les résoudre nous-mêmes, ces problèmes, sans avoir besoin de super-héros ou de héros ? Un autre exemple de héros, cette fois, ce n'est pas un super-héros, il n'a pas des super-pouvoirs, mais qui mène aussi une double vie, pour finir de répondre à cette question, c'est le cas de Zorro. Zorro, qui dans sa vie de tous les jours s'appelle Diego de la Vega, qui est un homme qui fait semblant de ne pas savoir manier l'épée, qui fait semblant d'avoir peur de se tacher avec des vêtements clairs et dorés, et qui en réalité s'habille le soir de noir vêtu avec un chapeau, un masque, une cape, un fouet et une épée, et qui va lutter contre les injustices, et notamment, dans son cas, une dérive dictatoriale, autoritaire, totalitaire dans l'État de Californie, qui est à l'époque encore indépendant. Donc il n'accepte pas cette dérive, cette mise en esclavage de plein de gens. Et donc Zorro va être un justicier solitaire la nuit, tout en étant un homme très banal dans la journée. Donc ces héros nous intéressent parce que ce sont des héros qui certes sont célèbres. Zorro devient très vite célèbre en Californie, Superman devient très vite célèbre également, mais en tant qu'individu, en tant que personne, Diego de la Vega ou Clark Kent restent des hommes humbles, des personnes qui restent modestes et qui ne veulent pas, dans leur vie quotidienne, qu'on les reconnaisse comme des héros. Voilà. Et je crois qu'il existe aussi des gens dans les luttes aujourd'hui qui font plein de choses formidables et qui sont quelque part des héros du quotidien et qui ne le font pas savoir. Il y a plein de gens qui font des choses géniales et qui ne font pas savoir ou dont on sait très peu de choses en réalité.
Mais pourquoi on ne mettrait pas de héros aujourd'hui comme Zorro qui ne respecte pas la loi?
Il y en a des héros aujourd'hui. Moi, je connais des héros qui ne respectent pas la loi. Par exemple, tout à l'heure, pendant qu'on était à l'atelier philo, au goûter philo, on a évoqué l'exemple d'une navigatrice qui s'appelle Pia Klump et qui, dans un documentaire, était vue en train de sauver des migrants de la noyade en mer, dans la Méditerranée. Pia, elle a fait ça quelquefois contre l'avis des gardes-côtes, contre l'avis d'autorités civiles qui voulaient empêcher, par exemple, de ramener les réfugiés dans des ports. Elle a même été poursuivie avec une menace de 20 ans de prison en Italie. Et elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle savait que la sanction risquerait d'être très, très forte. Mais cette fois, parce qu'elle a choisi, elle, de ne pas être secrète, mais elle a choisi d'accepter que les médias, c'est-à-dire vous ici aujourd'hui, informent la terre entière de ce qu'elle avait fait. Du coup, il a été impossible de la condamner parce que c'était juste, parce que tout le monde a compris que c'était juste de faire ça et que ça répondait à un besoin fondamental. C'est de nous entraider et de sauver nos vies mutuellement, c'est-à-dire la fraternité, le principe de fraternité.
D'accord. Et le héros, pour vous, pour toi, il agit pourquoi ? Par morale, par instinct, par devoir, par amour ?
Alors, cela a évolué avec le temps. Le héros, dans l'Antiquité grecque, c'est un héros qui obéit à sa destinée, ou plutôt même à son destin, parce qu'il intervient si peu dans son cheminement futur qu'on peut plutôt appeler ça le destin que la destinée, en philosophie. Le héros, à l'époque, c'est un héros comme Hercule ou Achille, etc., qui a des choses à accomplir, qui a des défis, et qui répond à des engagements très précis. Au fur et à mesure, ces engagements vont être un peu plus allégés, mais resteront quand même très, très réglés, comme par exemple avec les chevaliers du Moyen-Âge. Avec l'époque moderne, on a des héros qui sont un peu plus originaux. Et quand on évoque des Robin des Bois ou des Zorro, c'est des personnes qui, à un moment donné, dans des situations précises, disent non. Le héros, c'est quelqu'un qui dit non, à un moment donné, qui dit non, je ne peux pas laisser faire ça. Je vois que personne ne le fait, ben, je vais le faire. Voilà. Au lieu de s'organiser collectivement pour essayer de résoudre des problèmes, quand on voit que ça ne prend pas, que ça ne marche pas, comme en Californie, qu'à peine quelqu'un lève la main ou le poing, il est aussitôt en prison, et bien dans ce cas-là, il y a un Zorro qui la nuit va commencer à faire ça et qui va inspirer ensuite peut-être d'autres personnes. Parce que le héros, comme le héros de la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale, il peut inspirer aussi d'autres personnes. Et puis enfin, on a un bel exemple d'héroïne, parce que parlons aussi des filles, des héroïnes, avec Pocahontas, qu'on a évoqué à la fin de la rencontre. On en a évoqué d'autres, des filles avant, hein, la rebelle et beaucoup d'autres. Wonder Woman, évidemment, Wonder Woman, c'est pas forcément l'exemple le plus formidable, mais quand même, c'est une super héroïne qui a des super pouvoirs. Elle rentre dans une catégorie qui n'est pas forcément très riche en figure féminine, donc c'est important. Mais Pocahontas, elle est intéressante par rapport à ta question parce qu'elle, elle agit vraiment selon ce principe de fraternité, d'amour, d'amour universel et ce refus de la guerre. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on a des héros qui sont des héros qui luttent contre la nature, contre les bêtes sauvages. Hein, c'est l'origine des héros dans la préhistoire, c'est des gens qui, dans les clans, étaient capables de mieux protéger le clan que les autres, hein, par rapport à la menace des bêtes sauvages qui était très importante à l'époque. Ensuite, avec les Grecs, on a notamment les héros guerriers. Donc, c'est des héros qui nous protègent par rapport à la guerre, qui n'essaient pas d'arrêter la guerre, qui veulent simplement que leur camp gagne et veulent être reconnus comme pour leur exploit durant cette guerre, comme Achille en particulier. Et finalement, avec Pocahontas, on a exactement l'inverse. On arrive sur une période contemporaine, ou du moins dans les 100-200 dernières années, où cette fois, non seulement le héros devient une héroïne, mais surtout, c'est une héroïne qui lutte contre la guerre, qui n'est plus une guerrière, mais qui lutte contre la guerre, et qui lutte aussi pour défendre la nature, la vie, la planète, hein, le respect de celle-ci, par rapport à la question de la conquête de l'or, par exemple, dans les sous-sols. et qui lutte aussi contre la colonisation et surtout le racisme, puisque dans l'histoire de Pocahontas, on voit bien que des deux côtés, il y a une haine d'une couleur de peau différente, par exemple, et que Pocahontas, elle montre à la fois dans sa vie personnelle en tombant amoureuse d'un des visiteurs, voilà, mais aussi en appelant à arrêter de se faire la guerre, en apprenant des uns des autres. Voilà.
Deuxième extrait de Pocahontas, et là on va voir l'antithèse, la tentation de la guerre, de la haine, du racisme.
Il y a l'affaire avec ces païens indiens, c'est une race de vipères, de bons à rien. Il faut tuer ces bêtes, une balle dans la tête, la vermine, moi je l'extermine.
Non ! Si tu veux tuer cet homme, tu devras me tuer d'abord.
Ma fille, écarte-toi.
Je refuse. Voilà où conduit le chemin de la haine et de la violence.
Alors, quels sont les deux mots que nous a dit le chef indien? Qu'est-ce que nous a dit le papa de Pocahontas? Il a utilisé deux mots.
Sagesse.
Oui, elle a fait preuve de sagesse pour son âge. Donc, le héros est quelqu'un de sage cette fois, par rapport à ceux qu'on a vus auparavant, qui étaient colériques, qui étaient guerriers, qui obéissaient à leur destin. Mais là, il y a deux mots qui sont proposés par le papa, c'est le courage et la fraternité. Et donc ça, c'est déjà là, à travers les personnages qu'on a vus avant, on a déjà une forme de courage. Même Robin des Bois, est-ce qu'il est courageux, Robin des Bois, de faire ce qu'il fait quand il va voler l'or des riches pour le donner aux pauvres? Est-ce qu'il est courageux, Robin des Bois?
Oui.
Oui, il est courageux, Robin des Bois.
Il est très courageux.
Ce qu'a fait Pocahontas, est-ce que c'était courageux?
Oui.
Parce que, en fait, le courage, c'est de prendre un risque dans l'intérêt général ici. Par contre, cette fois, on a un autre mot que nous propose le chef indien, qu'on n'avait pas jusque-là. Qu'on commence à avoir avec les justiciers comme Zorro ou Robin des Bois. C'est déjà un mot qui est présent, mais là, il est encore plus présent. Et il est carrément nommé. C'est le mot fraternité. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les enfants, la fraternité? Oui.
Bah déjà, c'est dans le liberté, égalité, fraternité.
Déjà,
ça veut dire qu'on est tous frères, on est tous égaux.
On est tous frères et sœurs, ouais. On est égaux, et on est même peut-être plus que égaux, même, à travers ça. Il y a peut-être encore plus que la question de l'égalité. Ça veut dire quoi, la fraternité? Quand on est tous frères et sœurs, ça veut dire quoi?
On est pareil.
Ouais.
On est une famille.
Qu'on est une famille. Qu'on est une famille. Alors, est-ce qu'être égaux, c'est être pareil?
Non.
Philosophons un petit peu là-dessus. Est-ce que tous égaux, ça veut dire être tous pareils?
Non.
Ah non, c'est pas pareil? C'est quoi la différence alors?
C'est que pareil, c'est vraiment la même chose. C'est
identique.
Ouais. Et que égaux, c'est le même pouvoir.
On a les mêmes droits, par exemple. Donc, par exemple, on a des parts de 4 quarts. Donc, si on est tous égaux, on a droit à la même part, quelle que soit, par exemple, notre couleur de peau, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux. Et même si on n'a pas de cheveux, on peut avoir une part de 4 quarts. D'accord, on s'est compris.
Et j'ai une petite question sur Kirikou.
Oui.
Alors,
c'est vrai qu'on aurait pu le mettre.
Oui,
bien sûr. C'est un super mini-héros, mais qui fait des grandes choses. Après, moi, je ne les ai pas tous étudiés, mais je connais Kirikou. Et il nous intéresse à plus d'un titre, parce qu'aussi, c'est un enfant. Et un peu comme un Gavroche sous nos latitudes, quoi, les enfants aussi, quelquefois, sont des héros, comme dans la famille des Indestructibles. On a deux parents et deux enfants, c'est intéressant aussi, une famille de super-héros. Mais il y a aussi des enfants qui ont fait des choses assez extraordinaires dans l'histoire. Et qui mérite d'être aussi reconnu à ce titre. Cependant, j'insiste sur un point. En fait, mieux connaître l'histoire des héros à travers les époques, mieux comprendre d'où ça vient et comment ça a évolué, c'est peut-être aussi nous interroger sur la question, a-t-on vraiment besoin de héros ? Et à quelles conditions pourrions-nous ne plus en avoir besoin ? C'est-à-dire si peut-être nous construisions, bâtissions une société un peu plus juste et dans laquelle on aurait moins de problèmes de guerre, d'inégalités sociales, de destruction de la nature et d'autres fléaux encore. Eh bien, peut-être qu'on aurait moins de pain sur la planche sur ce terrain-là. On pourrait plus s'occuper de vivre heureux ensemble avec nos différences. Et ben, dans ce cas-là, ça serait fini de l'époque des héros et des super-héros. Peut-être que si on était nous-mêmes, chacun d'entre nous, un tout petit peu plus comme des héros, hein, sans forcément l'être pleinement, eh bien, du coup, on aurait moins ce travail. Je pense que durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, heureusement qu'il y avait des gens qui ont sauvé d'autres personnes et qui ont lutté pour la liberté, pour la justice. Et actuellement, il y a des gens qui sauvent des personnes qui sont dans une misère monstrueuse. Donc tout ça, on en a besoin. Moi, je ne suis pas contre l'existence de héros. Hein. Il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on ne connaît pas. Il y a les nombreux anonymes qui font des choses formidables, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont discrets, ou alors qui se cachent aussi, parce que quelquefois, ce n'est pas bon de dire publiquement ce qu'on fait, quoi, dans la résistance, de différentes manières. Mais par contre, le but, quand même, ça serait qu'on n'ait plus besoin de se démarquer, qu'on puisse tous avoir une petite vie tranquille à la médiathèque, dans nos familles, amoureux, copains, s'amusant, créant, travaillant des choses, sur des choses qui nous intéressent et vivant ensemble dans la paix sans avoir plus besoin de pouvoirs de toutes sortes pour arriver à résoudre les problèmes, quoi. Moins il y aura de problèmes, moins on aura besoin de héros.
Tu viens d'animer un atelier ici à la Média Ludo. Et pourquoi un atelier philosophique pour les enfants ?
Parce que je pense que, justement, avec des héros ou sans héros, quand on essaie de changer la société, souvent on oublie qu'une des façons de changer la société, c'est d'aller directement s'adresser à ceux qui arrivent, à ceux qui sont encore tout jeunes, à ceux qui commencent à penser, à avoir des opinions, non pas pour faire un travail de propagande, de prosélytisme quelconque. Ceux qui me connaissent dans mon travail savent que je ne le fais jamais. Mais par contre, ce qui est très important, c'est d'apprendre à penser par soi-même pour ne pas être manipulable. Et je pense que l'un des fléaux de nos sociétés depuis des siècles et des siècles, c'est d'être trop souvent manipulable pour différentes raisons qui sont notamment liées à une forme d'éducation qui ne convient pas pour permettre à un humain d'être pleinement humain. Pour être pleinement humain, il faut d'abord être capable de penser par soi-même. Et pour cela, il faut être capable de douter, de tout remettre en question. Socrate disait que je ne peux être sûr que d'une chose, c'est que je ne sais rien. Donc ça veut dire que je ne peux être sûr de rien, quoi, en fait, que je dois tout vérifier, tout examiner, en considérant comme Socrate qu'une vie qui n'est pas examinée n'est pas pleinement vécue. Donc on n'est pas pleinement humain si on n'examine pas pleinement la vie, si on se rend pas compte qu'à tout moment dans notre vie, on a des carrefours, des croisements, sauf qu'on a tellement peur de faire des choix que du coup, on se laisse à croire que quelquefois qu'on est sur des autoroutes, alors qu'en fait, il y a toute une carte devant nous, mais qu'on n'ose pas la voir. Et ensuite, avec des cartes, on peut dire que ben, c'est à la condition de penser qu'on est pleinement humain et que pour penser, il faut douter. C'est-à-dire qu'il faut penser contre soi. Penser, c'est d'abord contre soi, c'est-à-dire par rapport à nos préjugés, par rapport à nos présupposés, par rapport à nos idées reçues, par rapport à nos certitudes. On doit être capable de déconstruire pour mieux construire. Donc, je doute, donc je pense, donc je suis. Je ne suis vraiment qu'à la condition que je suis capable d'effectuer ce travail sur moi par rapport à mes idées, à mes pensées, pour que ce soit vraiment mes pensées, et aussi que j'arrive à articuler aussi mes pensées et mes actes. Voilà. Et après, il y a un auteur qui est à la base de l'existentialisme, un courant de la philosophie, qui s'appelle Søren Kierkegaard, un Danois, qui a évoqué la preuve de la liberté, c'est-à-dire de la liberté humaine, c'est-à-dire l'angoisse. Non pas l'anxiété, simplement de quelque chose qui pourrait nous arriver, d'extérieur, mais l'angoisse d'avoir à être et d'avoir à faire. Voilà. L'être humain ressent une angoisse profonde dans la vie qu'il peut plus ou moins essayer d'occulter, d'oublier, de dénier. Et cette angoisse, c'est l'angoisse de se choisir, l'angoisse de la liberté, de la responsabilité, c'est la preuve, selon beaucoup d'auteurs comme Beauvoir, Sartre et plein d'autres, c'est la preuve de la liberté. Ça veut dire qu'on peut user, pour reprendre leur terme, de la mauvaise foi, pour ne pas faire face à notre liberté et notre responsabilité, mais on peut aussi faire face à la réalité, c'est-à-dire que nous avons une grande responsabilité, non seulement sur notre propre vie, mais sur tout ce qui se passe autour de nous, sur la planète tout entière et pas seulement dans notre village. Et d'une certaine façon, nous pouvons participer très modestement à changer le cours des choses. Nous sommes un tout petit domino dans l'ensemble des dominos et nous avons notre mot à dire et l'histoire n'est pas écrite d'avance. C'est pour ça que c'est ça aussi, être humain. C'est être à sa mesure un tout petit micro-héros qui va participer à résoudre un certain nombre de problèmes et à faire évoluer la société dans un sens un peu plus juste et un peu plus humain.
Dernière petite question. Quel est ton héros préféré ?
J'aimerais pas avoir des super-pouvoirs et je pense pas que la solution passe par les super-pouvoirs. Je pense plutôt que c'est déjà d'utiliser ce dont on dispose, ça serait déjà bien parce qu'on a un cerveau, on a des bras, on a un cœur pour aimer, même si c'est une métaphore. Et donc, par conséquent, je pense qu'on n'a pas besoin de plus pour arriver déjà à changer la société, l'améliorer et vivre plus heureux ensemble. Donc, après, c'est vrai que d'un claquement de doigts, si on pouvait arrêter la guerre et donner à manger à tout le monde, ça serait bien, évidemment. Mais ça serait une solution provisoire. Et je pense que la responsabilisation des humains, nos élevés en termes de maturité, de sagesse, ça serait encore plus bénéfique pour un avenir durable. Par contre, je ne renie pas l'importance des héros dans l'histoire. Et c'est vrai que si je pensais à un héros plutôt qu'un autre, c'est vrai que certains héros de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, moi, me touchent particulièrement, d'autant plus que je connais personnellement une personne qui a eu un rôle à part entière et sa fille par la suite, durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais si je dois choisir un héros de l'imaginaire collectif, de la bande dessinée par exemple, puisqu'on est dans une médiathèque, ici à la Média Ludo, j'aimerais inviter nos jeunes lecteurs et moins jeunes à lire ou relire Rahan. Rahan, personnage de bande dessinée, qui moi me plaît personnellement parce que c'est un humaniste avant l'heure. C'est le premier des humanistes pour moi, un humaniste de la préhistoire, qui va voyager de clan en clan sans jamais appartenir à un seul clan. C'est quelqu'un de très indépendant, Rahan, qui voyage de façon solitaire, mais pas par misanthropie, pas parce qu'il n'aime pas les humains, au contraire, parce qu'il aime tellement les humains qu'il a envie d'aller apprendre des uns et des autres, et aussi leur apprendre aussi. Donc c'est quelqu'un qui, à chaque voyage, apprend des autres et apprend aux autres. Il échange des savoirs, et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin, ce métissage au niveau des connaissances, au niveau des savoirs, au niveau des expériences. Et aussi, moi, ce que j'aime bien chez Rahan, je l'avoue, et c'est, si je fais de la philosophie, c'est pas par hasard, c'est qu'il lutte contre les superstitions. Rahan, c'est quelqu'un qui est un partisan de la raison contre la superstition, la raison scientifique, la raison philosophique. En l'occurrence, Rahan, ses ennemis, c'est pas tant les animaux monstrueux, dangereux, les grandes bêtes féroces. Ses pires ennemis, c'est les sorciers. Voilà. Il lutte beaucoup contre les sorciers, Rahan, qui manipulent les gens en maîtrisant des savoirs qu'ils ne veulent pas partager, de façon à dominer des populations. Et certains chefs, Rahan n'est pas en conflit avec tous les chefs, mais parfois avec certains chefs. Donc de ce côté-là aussi, j'aime bien le personnage de Rahan. Et c'est un personnage en plus qui a des points de repère, qui a des valeurs. Il porte 5 griffes à son collier, qui chacune représente une valeur. Je ne vais pas vous les dire, je vais vous laisser les découvrir en feuilletant Rahan, en cherchant sur Internet à son sujet. Mais les 5 valeurs en question me semblent extrêmement importantes aussi. Et voilà, et puis c'est quelqu'un qui me semble assez équilibré. Et puis moi-même étant un vagabond qui voyage beaucoup dans pas mal de pays, je n'ai pas de... J'ai pas d'assises, je me reconnais aussi dans ce personnage très modestement, même si j'ai pas sa musculature et j'ai pas du tout sa coiffure. Voilà, mais bon, voilà. J'aime ce Rahan, le premier des humanistes et le premier partisan de la raison avant l'heure. Voilà,
est-ce que vous connaissez Rahan?
Non,
que
ça vous je connais pas Rahan.
Ça vous donne envie de lire?
Oui,
mais voilà. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter?
Non, je voudrais juste dire merci pour cet échange très instructif.
Avec plaisir, avec plaisir. C'est important de discuter des choses qui nous intéressent les uns ou les autres, parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Et du coup, d'échanger avec d'autres personnes, eh bien, ça permet de découvrir pourquoi on a une opinion différente. Et quelquefois, on peut avoir le même avis sur les choses, mais pas pour les mêmes raisons. Et du coup, ça nous permet d'apprendre aussi la raison de l'autre. Et du coup, on a encore plus de raisons d'avoir cette opinion, cet avis par la suite. Ça permet d'enrichir notre point de vue. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que la philosophie, ce n'est pas fait pour les enfants, que c'est trop difficile. Et en fait, l'erreur, c'est de croire que ben, ce n'est pas le cas aussi dans les autres matières. Par exemple, en mathématiques, on peut apprendre que 1 plus 1, ça fait
2.
Et 2 plus 2, ça fait
4.
Et ainsi de suite. Et puis après, on peut apprendre les dérivés, on peut apprendre les intégrales beaucoup plus tard. Ce n'est pas grave. De même qu'en anglais, dire oui, ça se dit
yes.
Yes.
Dire non, ça se dit
no.
No.
Comment on dit bonjour ?
Hello.
Et comment on dit au revoir ?
Goodbye.
Voilà. Et puis après, on peut soutenir un langage beaucoup plus soutenu, beaucoup plus costaud en anglais. Voilà, il y a différents niveaux. On peut avancer sur ce chemin. Mais la philosophie, c'est pareil. Le premier niveau de l'apprentissage de la philosophie, avec Michel Tozzi et quelques autres, on appelle ça l'éveil à la pensée. L'éveil à la pensée, c'est comprendre simplement qu'il ne suffit pas de répéter ce qu'on a entendu ailleurs pour penser par soi-même et qu'il ne suffit pas d'avoir une opinion. Opinion du chef, ça veut dire opinion du chef de la tête, ça veut dire dire oui à quelque chose, alors que philosopher, disait Alain, c'est dire non. C'est exactement l'inverse. C'est dire non, c'est-à-dire rompre avec les a priori, avec les certitudes, douter. Voilà, donc c'est une démarche qui peut commencer dès le plus jeune âge et après qui peut se structurer, qui peut s'organiser autour de la logique, autour de questionnements de différents niveaux en fonction de l'âge. Par exemple, les enfants adorent ce genre de questions. Par exemple, dès le plus jeune âge, c'est « l'être humain est-il un animal comme les autres ?» Ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Ou encore « c'est quoi grandir ?» C'est quoi grandir ? Parce qu'il y a plusieurs façons de répondre à la question, évidemment. Ou encore « c'est quoi la recette du bonheur ?» C'est quoi être libre ? Voilà. Comment vivre ensemble avec nos différences ? Et beaucoup d'autres sujets qui, selon l'âge, selon la classe d'âge, va plus interroger certains enfants que d'autres, évidemment. Quoi. Donc, on peut philosopher sur tous les sujets, mais je veux dire qu'il y a des moments dans la vie et des âges auxquels certains sujets sont beaucoup plus préoccupants que d'autres. Quoi. Voilà.
Alors, j'ai une petite question sur quel livre tu conseillerais pour les enfants pour démarrer la philosophie ? En partant de la sixième, donc 11 ans, par exemple.
Alors, je vais te dire, il y a beaucoup plus de livres qu'avant qui sont à votre disposition pour ça. Moi, je conseille les livres de mon ami, mon vieil ami Michel Tozzi, qui est celui qui m'a le plus entraîné là-dedans. Je faisais des cafés philo, je faisais plein de choses, de la philo, mais avec des adultes, quoi. En fait, mon but, c'était la devise de Diderot, de l'encyclopédie, « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire pour lutter contre l'obscurantisme sous toutes ses formes ». Et donc, je le faisais plutôt avec les adultes. Et Michel m'a dit, non, mais là, on a commencé avec les enfants. C'était presque l'an 2000. Et du coup, j'ai foncé moi aussi. Et donc, vraiment, en hommage à cet homme qui a fait un travail extraordinaire, je vous conseille vraiment de découvrir tout ce qu'il a fait. Michel Tozzi, il y a plein de livres pour la jeunesse qui sont absolument formidables.
Qu'est-ce que vous en avez pensé du goûter philo ?
Bah, j'ai trouvé que c'était très chouette parce que j'ai appris plein de trucs sur les super-héros que je savais pas.
J'adorais parce que voilà, j'ai adoré.
Et vous ?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai appris plein de choses, je me suis souvenue de plein de choses et puis j'ai plein de questions à continuer à me poser.
Quelqu'un d'autre veut réagir ? Le goûter philo ? Vous qui êtes de la maison peut-être ?
Je suis hyper contente comment ça s'est passé. En plus, les réponses des gens qui ont participé étaient hyper intéressantes. Et comme a dit la personne là-bas, ça fait poser des questions pour plus tard aussi. Ça, c'était bien.
Non, non, la philo pour les enfants, avec les enfants, par les enfants, maintenant, ça existe, ça se fait de plus en plus. Et il suffirait que d'une volonté politique pour aller plus loin et nous permettre tous de nous hisser en matière de conscience collective de façon à ne plus avoir besoin de héros.
Merci.
Merci.
Bravo. Super, super.
Au revoir et à une prochaine fois.
Ce podcast a été réalisé le 13 décembre 2025 à la Média Ludo Audi-Sud de Blagnac, lors d'un atelier d'initiation au podcast mené par Alexandra Joss pour l'association Média Commun. Ce podcast est placé sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.